Je vous invite d'ouvrir votre Bible à l'Apocalypse 14, versets 1 à 5. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient sur cantiques nouveaux devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'était les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes qui sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des premiers pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables.
Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un bonheur de me trouver parmi vous et de parler de la prophétie. Et le sujet était évoqué tout à l'heure, notre monde dans son ensemble vit des moments difficiles. Et chacun, peut-être en particulier dans sa vie, vit aussi des moments difficiles. Alors, on se demande de quoi l'avenir sera fait. Ne croyez pas que les choses vont s'apaiser. Notre Seigneur nous a avertis. Plus on ira vers la fin, plus ce sera tourmenté. Au point que les nations ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Le rôle du peuple de Dieu dans ces temps-là. C'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Est-ce que le peuple de Dieu doit être un oiseau de malheur ou simplement avertir des malheurs qui sont devant nous ou a-t-il un autre rôle? Je vais essayer de vous en parler. Alors je vous avoue que ça fait tellement longtemps que nous ne nous sommes pas vus que j'ai perdu un peu le fil de l'endroit où j'étais dans ce texte. Je sais que c'est entre les chapitres 12 et 15, mais je n'ai pas plus de précision que cela. Alors j'ai pris ce qui est au milieu et ce texte qu'on vous a lu sur les 144 000. S'il y a un sujet en matière de prophétie qui est controversé dans nos rangs, et qui donne lieu à des polémiques, voire à des débats, ou qui donnait peut-être lieu, parce que ça n'est plus le cas maintenant, c'est bien le sujet des 144 000. Et je n'ai pas l'intention ni de résoudre tous les problèmes, ni de rentrer dans la polémique, mais d'essayer d'examiner quelques aspects de ce texte qui vient de vous être lu. Ce texte, vous l'avez vu, nous parle des 144 000 et nous dit qu'ils sont sur la montagne de Sion. Ils suivent l'agneau partout où il va. Que veut dire qu'ils sont sur la montagne de Sion? Vous me direz, est-ce qu'il faut être à Jérusalem pour faire partie de ce peuple de Dieu de la dernière génération? Certainement pas. Mais, par contre, cette montagne de Sion, cette sainte montagne de Dieu, comme elle est appelée parfois, relève en réalité d'une expérience spirituelle particulière. Et de la même manière que Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, de même que quelques disciples ont accompagné Jésus sur la montagne de la Transfiguration, il y a là une valeur symbolique à cette montagne de Sion. Et j'aimerais vous le montrer à travers quelques textes. Mais avant cela, je vais prendre le temps, quelques minutes, on m'a dit que j'avais jusqu'à midi. Malheureusement, on a bien fait de me le dire, parce qu'il faut toujours me tirer par le pan de la veste. J'ai tendance à déborder, ça c'est mon côté méridional. Ne m'en voulez pas, je suis bâti comme ça. Mais on essaiera de ne pas trop déborder. Donc, voyons un petit peu, voilà, ce qui se passe dans ce contexte-là. Si nous regardons les chapitres 12 et 13, nous voyons d'abord apparaître un personnage qui est le dragon. Vous connaissez bien votre texte, vous savez ce qu'il y a dans votre texte au chapitre 12 et 13. Bon, alors allons-y, ouvrez vos Bibles. Et donc, au début du chapitre 12, apparaît le dragon. Qu'est-ce que c'est le dragon ? Le texte nous le dit, c'est Satan. Mais c'est Satan qui poursuit l'enfant dès sa naissance. Qui a poursuivi l'enfant dès sa naissance ? Qui a poursuivi Jésus dès sa naissance ? Sinon Hérode. Et Hérode était le représentant de l'Empire romain. Et donc derrière ce personnage, il y a aussi l'Empire romain. Et puis, on arrive au chapitre 13. Et on voit que le dragon, Empire romain, passe son trône, son autorité à une autre puissance qu'on appelle la bête. Et cette bête, elle représente le système féodal du Moyen-Âge. Et en effet, l'Empire romain a passé son trône, Rome, sa puissance, son autorité, à un système politico-religieux du Moyen-Âge et qui a fait autorité pratiquement jusqu'à la Révolution française. Puis arrivé donc au XVIIIe siècle, une autre puissance va prendre le relais. Dans l'Apocalypse, elle est appelée la bête qui monte de la terre. Et nous l'avions identifiée certainement comme les États-Unis d'Amérique. Le dragon, lui, Satan, va se manifester à la fin surtout par une action dans le domaine du spiritisme. Et tous les textes sont pleins de faux esprits, d'esprits de démons, d'esprits malins. Et donc c'est dans ce domaine-là qu'il faut le chercher. La bête, le système féodal du Moyen-Âge, est tombé. Par contre, le texte nous dit qu'il va renaître de ses cendres. Il a reçu une blessure mortelle, mais il va guérir. C'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément, la bête à deux cornes, la bête qui monte de la terre, en d'autres termes, les États-Unis d'Amérique, vont devenir des séducteurs pour toute la terre, au point qu'on va les appeler faux prophètes. Et vous avez donc là trois entités, le dragon, la bête et le faux prophète, qui vont se trouver associés, dans une entité commune, et au chapitre 16, on les voit associés à la sixième coupe, en particulier à partir du verset 12, hein, chapitre 16, verset 12, on les voit associés ensemble. En somme, ce que nous dit ce texte, si je veux le condenser, le résumer, c'est que toutes les forces du mal vont se rassembler. Vont se rassembler pourquoi ? Elles vont se rassembler contre quelque chose. Donc ces trois entités se trouvent rassemblées là. Et nous nous trouvons à ce moment, si vous voulez, où toutes ces forces réunies vont finir par émettre, par décréter un décret de mort, décidant que ceux qui ne portent pas la marque de la bête doivent être exécutés. Alors peut-être vous dites-vous, non, les guerres de religion, c'était pour le Moyen-Âge, c'était peut-être pour l'Irlande ou l'Islande, mais surtout pour l'Irlande à une certaine époque, c'est vrai peut-être pour l'Iran, pour l'Irak, mais pas pour nous maintenant. Détrompez-vous, il y a seulement quelques dizaines d'années, un mouvement a sévi en Europe qui se réclamait de Dieu et qui était extrêmement persécuteur. Ne croyez pas que les guerres de religion sont derrière nous. Elles peuvent être devant nous. Et donc, si vous voulez, arriver à ce moment de l'histoire, à ce moment de la prophétie, où toutes les forces sont réunies, on réalise qu'elles sont réunies contre le peuple de Dieu. est réuni contre le peuple de Dieu, que va faire le peuple de Dieu? Il est le dos au mur. Et le chapitre 14 va nous parler des trois messages. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ces trois messages sont à prêcher par le peuple de Dieu. Et nous verrons cet après-midi le contenu de ces messages. Et vous vous rendrez compte que ces trois messages, ils ne sont pas bons simplement pour nos pionniers il y a 150 ans. Ils sont plus actuels que jamais, parce qu'ils nous parlent d'écologie, ils nous parlent de mondialisation, c'est-à-dire de problèmes actuels. Oh, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de les lire comme ça, mais je vous montrerai que ça y est. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, et dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais vous parler de ce peuple de Dieu. Avant de vous parler de son message face à un monde en révolution, de quelle nature, de quelle qualité est ce peuple? Alors, je vais le faire à travers quelques versets parallèles. J'aimerais vous parler d'abord d'un passage que nous allons trouver dans le livre de Sophonie. Au chapitre 3, alors je donnerai verset 9 au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. Vous allez voir, il parle d'Israël, mais il parle d'un peuple qu'il honore venant de toutes les nations. Vous savez, quand on décrit les 144 000, on se souvient simplement qu'ils sont 12 000 de chaque tribu. En réalité, il s'agit de l'Israël spirituel. Et cet Israël-là, il vient de toutes les nations. Lisons ensemble la suite. « En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. » Vous vous rappelez des 144 000? Ils sont irrépréhensibles. On les retrouve ici. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte. Ce peuple est sur la montagne sainte, comme les 144 000 sur la montagne de Sion. Comment nous est décrit ce peuple chez Sophonie? Je laisserai au milieu de toi, verset 12, un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge. Vous rappelez le texte d'Apocalypse 5, dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont sur la montagne de Sion, nous les retrouvons donc bien là. Un peuple humble et petit. Mais ils paîtront et se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Vous étonnerais-je si je vous dis que même si c'est un peuple qui souffre, le peuple de Dieu à la fin des temps, c'est un peuple joyeux. C'est un peuple heureux d'appartenir à son Sauveur. Maintenant, laissez-moi vous proposer un deuxième texte. Un deuxième texte que nous allons trouver chez un autre prophète, Joël. Alors, c'est un prophète connu. Et nous allons lire à la fin du chapitre 2 quelques versets. Oh, ces versets sont très connus, c'est un classique parmi les classiques. C'est ce qui nous décrit la pluie de l'arrière-saison. Lisons-le à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. De nouveau, ce peuple est sur la montagne de Sion, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et là, vous voyez apparaître quelques notions supplémentaires à ce peuple. Il est sur la montagne de Sion. Certes, c'est un peuple de réchappés, de rachetés. C'est donc un reste. Nous retrouvons cette notion de reste. Mais quel est l'élément très neuf que nous apporte ce texte ? Ils reçoivent la pluie de l'arrière-saison. Ils reçoivent la pluie de l'Esprit. Le peuple de Dieu de la fin, celui qui va annoncer les trois messages et qui va les annoncer à toute la terre, parce qu'enfin, reconnaissez avec moi que ces trois messages n'ont pas été annoncés à toute la terre, à toute tribu, à toute langue, à toute nation et à tout peuple. Il me semble qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour cela. Mais ça doit être fait, et ce sera fait. Simplement, il faudra au peuple de Dieu l'Esprit de Dieu, et pas une petite mesure de l'Esprit. Il faudra la pleine mesure de l'Esprit pour que cela puisse se réaliser. Donc l'élément neuf ici que nous apporte ce texte, c'est la pluie de l'Esprit. Mais il nous apporte, si on veut bien aller jusqu'au chapitre 3, il nous apporte un autre élément. Et regardez ce que nous dit le début du chapitre 3. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, on est bien dans le même contexte, hein, en ces jours, en ces temps-là, pour vous dire qu'on est dans le même contexte, hein, regardez ce qui est dit au verset 31 déjà. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Nous sommes donc bien dans cette période qui précède immédiatement le retour de Jésus. Chapitre 3, verset 1. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Nous parlerons lors d'un prochain séminaire de la vallée de Josaphat. De quoi est-il question là ? Là, j'entrerai en jugement avec elle, c'est-à-dire avec toutes les nations, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Et si vous lisez la suite du texte, vous vous rendrez compte que, en réalité, Dieu est un abri pour son peuple. Verset 16. De Sion rugit l'Éternel. De Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Il ne sera pas tout épargné au peuple de Dieu. Il sera persécuté. Mais il est clair, et le texte nous le dit, que Dieu sera un abri et un refuge pour son peuple. Alors je pourrais vous citer d'autres textes où on retrouve ces notions d'un peuple en nombre réduit, d'un reste, d'un peuple qui se trouve sur la montagne de Sion. Et vous en avez un dont la référence m'échappe en ce moment, mais qui serait apparu à l'écran, qui nous dit qu'il est sur la montagne de Sion pour annoncer la bonne nouvelle. Pour dire « Ton Seigneur vient, il est là, il est à la porte. » Même si c'est un prophète de l'Ancien Testament qui nous le dit, vous conviendrez que c'est très actuel, que ça correspond à ce que le peuple de Dieu doit annoncer, doit dire. C'est un des aspects de cette montagne de Sion, c'est la prédication du retour imminent de Jésus, de la bonne nouvelle. D'ailleurs, nous avons lu au chapitre 14 les versets 1 à 5. Si vous lisez le verset 6, qui trouvons-nous? Eh bien, on y trouve les messages des trois anges, mais regardez ce qui est dit du message des trois anges. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. En d'autres termes, ces trois messages, c'est l'évangile éternel. Mais c'est l'évangile éternel pour notre temps. Et j'espère vous le montrer cet après-midi. Vous me direz, mais l'évangile éternel, c'est l'évangile éternel, c'est la bonne nouvelle de toujours. Oui, et c'est vrai. Mais quand Noé a parlé à ses contemporains, est-ce qu'il n'avait pas, dans ce message de repentir vis-à-vis de Dieu, un message particulier pour son temps? Est-ce qu'il n'avait pas à prêcher l'imminence du déluge? Quand Jérémie avait à prêcher à ses contemporains, est-ce qu'il n'avait pas à prêcher l'imminence de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar? Vous voyez donc que l'évangile, la prédication de la bonne nouvelle, ne va pas sans une prédication actualisée de l'évangile. Est-ce que nous ne restons pas trop souvent sur une prédication standard, j'allais dire, de l'évangile, sans faire intervenir la prophétie? La prophétie qui nous dit où nous en sommes, n'était-ce pas un reproche de Jésus à ses contemporains? Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez dire sur le fait que le ciel est rouge foncé ou rouge plus foncé, que le lendemain il fera beau, qu'il y aura de la pluie. Et vous ne savez pas discerner les signes des temps. Est-ce que nous n'avons pas sous les yeux des signes des temps? Et la prédication doit forcément en être teintée de cette couleur du ciel. Forcément, la prédication de l'Évangile doit en être imprégnée. Elle n'y est pas étrangère. Alors, j'aimerais également, et vous avez un autre texte que je vous citerai peut-être, tout à l'heure, qui nous montre que ce peuple est un peuple de prière. Un peuple de prière. Ce peuple-là ne peut pas accomplir sa mission. Nous ne pourrons pas accomplir notre mission si nous ne sommes pas un peuple de prière. Et il le sera. Et de prière pour tous les peuples. Et j'aimerais, dans les minutes qui me restent, attirer votre attention sur un autre aspect de ce peuple. Je vous invite donc à retourner à Apocalypse 14. Au verset 2. Les 144 000, ils avaient le nom de Dieu et le nom du Père, donc le nom du Fils, écrit sur leur front. Verset 2. « Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Une voix comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. » Est-ce qu'il est possible de parler quand le tonnerre gronde? Difficile de communiquer à ce moment-là, hein? Sinon peut-être par des cris et par la peur. Et je ne sais si vous vous êtes trouvé à côté de grandes chutes, comme les chutes du Niagara, je peux vous dire qu'à 500 mètres des chutes, il est impossible de communiquer. On ne peut pas se parler. Eh bien, ce peuple-là a une voix forte comme le bruit des grosses eaux, comme celui d'un grand tonnerre. Vous savez à quoi est comparé le tonnerre dans l'Ancien Testament quand on nous parle d'une voix de tonnerre, d'une voix comme le bruit des grandes eaux? c'est la voix de Dieu. Et dans tout l'Ancien Testament, c'est la voix de Dieu ou la voix des quatre êtres vivants qui est comparée à la voix de Dieu. Le peuple de Dieu aura à ce moment-là, dans la prédication de son message, une voix puissante comme la voix de Dieu. Peut-être que vous vous examinez, que vous regardez vos campagnes d'évangélisation. Et si je regarde moi-même ce que j'essaie de faire, j'ai le sentiment que je suis bien loin de cela, bien loin de cette puissance. Vous savez que les apôtres, en une génération, avaient révolutionné le monde. Ils avaient rempli Jérusalem de leur enseignement, mais ils avaient essaimé dans tout le monde connu d'alors, dans tout le monde romain. Ça n'est plus possible maintenant. Par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, ça se réalisera. Et ne me dites pas que c'est parce qu'il y a chaque jour, peut-être à chaque minute, des milliers de personnes qui naissent, que ça ne sera pas possible. Les moyens sont là, et s'ils n'étaient pas là même, Dieu les inventerait. Mais il a besoin d'un peuple. Il n'a pas besoin d'un peuple nombreux. 10 000 personnes se sont présentées pour aller à la bataille. Et finalement, Dieu en a choisi 300. Des foules suivaient Jésus. Il en a choisi 12, puis 70. Dieu n'a pas besoin du nombre. Mais il a besoin de personnes consacrées. Alors vous avez peut-être vu qu'il y a une deuxième caractéristique à cette voix. Elle est puissante, comme le bruit des grandes eaux, comme le bruit de forts tonnerres. C'est la voix, c'est la puissance de la voix de Jésus au chapitre 1. Je vous le rappelle, tenez, regardez au chapitre 1 d'Apocalypse. Ce personnage, la vision inaugurale de Jésus, de Jean. Et c'est Jésus qu'il contemple. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Je continue un petit peu plus loin, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. La voix du peuple de Dieu est comme celle de Jésus. Mais il y a autre chose dans ce texte. Et je vous relis le verset 2. Il tenait dans chapitre 14. Et j'entendis du ciel une voix comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Est-ce que vous avez déjà entendu des tonnerres ou des cascades d'eau jouer comme la harpe? C'est contradictoire, ça. Et il nous est dit que le peuple de Dieu a un message d'une force extraordinaire, comme si c'était la voix de Dieu lui-même, et que leur voix est comme celle de joueurs de harpe. Qu'évoque pour vous la harpe? La douceur, l'harmonie, le réconfort. On appelait David pour jouer de la harpe quand Saül était animé d'un mauvais esprit. Tous les enfants le savent et l'ont appris cela. Est-ce que notre monde n'est pas animé d'un mauvais esprit? Est-ce que le peuple de Dieu n'est pas appelé à être ce joueur de harpe qui amène un peu de sérénité, un peu d'apaisement dans ce monde? Voilà à quoi est appelé le peuple de Dieu. Pas seulement à prêcher un message puissant. Oui, c'est vrai, il le faut. Mais en même temps que ce message puissant, Il a une voix douce comme celle de joueur de harpe, qui amène l'apaisement et l'harmonie. Alors sommes-nous dans le temps des 144 000 ? J'ai envie de vous dire en toute simplicité, quand le peuple de Dieu aura un message fort, comme si c'était Dieu lui-même qui prêchait, mais doux, comme celui d'un joueur de harpe, apaisant, calmant, apportant la sérénité, le réconfort. Quand le peuple de Dieu aura à la fois ces deux qualités, quand son message aura à la fois ces deux qualités, alors je crois que nous serons là, dans le temps des 144 000. Laissez-moi aller tout à fait à la fin. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ah, c'est là souvent que porte la polémique. Est-ce que c'est possible? Eh bien, mes amis, je suis obligé de reconnaître avec vous que c'est impossible. Enfin, à moi, au moins. C'est impossible, mais je sais que par la grâce de Dieu, c'est possible. Si je compte sur moi-même, sûr, je n'y arriverai pas. Mais si je ne prends pas cela comme une exigence, mais comme une promesse, si, comme nous le dit l'apôtre Paul, il cherche à nous conserver irrépréhensibles pour son retour, et il ajoute « c'est lui qui le fera », c'est une promesse. Alors par la foi, je m'accroche à cette promesse et je dis oui, c'est possible. Tel sera le peuple de Dieu. Voulez-vous faire partie de ce peuple? Voulez-vous faire partie de cette génération qui se lève, qui proclame haut et fort l'évangile éternel? Mais un évangile éternel pour notre temps, et qui en même temps soutient, réconforte, apaise, ne joue pas sur la peur, mais joue sur le réconfort, sur l'aide à apporter à chacun autour de lui. Que Dieu nous aide à le comprendre, que Dieu nous aide à le vivre. Je ne puis pas le vivre par moi-même. Comment puis-je le vivre? Le secret est dans le texte. Ils chantent un cantique nouveau. C'est une expérience nouvelle. C'est une expérience que nous n'avons jamais faite. C'est une expérience que le peuple de Dieu de la dernière génération est appelé à vivre. Et si vous regardez bien ce qui est dit, alors vous voyez qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Que veut dire qu'ils suivent l'agneau partout où il va? Ils ont les regards rivés sur l'agneau. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit que si nous avons les regards fixés sur Jésus, nous sommes transformés en la même image, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je ne peux pas moi-même, mais les yeux rivés sur Jésus, alors je peux. Mais que veut dire suivre l'agneau partout où il va? Ça veut aussi dire le suivre auprès du malheureux, auprès du pauvre, auprès de l'exilé, auprès du perdu, auprès de tous ceux qui sont malheureux. Et s'il nous arrive de nous approcher de ces malheureux, de ces cabossés de la vie, disons-nous que Jésus nous y a précédés. Tel est le peuple de Dieu. Tel il veut que nous soyons. Vous n'en êtes pas capables, tant mieux. Parce que ceux qui s'en croient capables n'y arriveront pas. Vous ne vous en croyez pas capables, alors c'est vous que Dieu choisit pour l'accompagner.